êtes bien sur Radio Orient, il est 17h. À la une, la France se joint aux autres pays pour mettre un terme au commerce avec les colonies israéliennes en Cisjordanie. Un pas non négligeable pour Jean-Paul Chagnolot, président de l'Institut de recherche IREMO. Vous l'entendrez. La situation se tend encore davantage au Moyen-Orient. L'Iran a frappé plusieurs bateaux américains dans le Golfe. Le baril du Brent atteint les 100 dollars. On fait le point dans quelques instants. Propos racistes et complotistes, les dérives d'un policier municipal et de son équipe. C'était ce policier proche du maire de Carcassonne et membre du service d'ordre du Rassemblement National. On vous explique ce qui s'est passé dans quelques instants. Football, retour du PSG en Ligue des Champions. Dès ce soir, c'est la première journée de la compétition européenne. Les doubles champions d'Europe en titre affrontent un adversaire peu connu sur la scène européenne, le Slovan Bratislava. Je vous le disais, 12 pays, dont la France, le Royaume-Uni et le Canada, veulent restreindre le commerce avec les colonies israéliennes en Cisjordanie, dénonçant leur expansion et les violences contre les Palestiniens. Cette initiative diplomatique accentue même la pression sur l'État hébreu et pourrait relancer le débat sur des sanctions européennes. Jean-Paul Chagnolot, président de l'Institut de recherche IREMO, réagit justement à cette initiative au micro de Radio Orient.
C'est un qui n'est pas négligeable, surtout que c'est pris par une douzaine de pays, dont la France évidemment, mais en même temps c'est davantage une mesure, disons, symbolique, mais qui est très en deçà de la réalité du terrain. Et bien entendu, ça ne va pas faire changer d'iota du gouvernement israélien. On a une situation qui est au-delà du dramatique en Cisjordanie, et cette question du commerce avec les colonies, elle est sur la table depuis très très longtemps, des années et des années, pour ne pas dire des décennies. Notamment, c'était discuté à Bruxelles et ça n'aboutit à rien, alors que pourtant, nous sommes juridiquement, évidemment, dans une situation de territoire occupé, reconnu par le droit international et par toutes les institutions internationales, et malgré tout, finalement, le commerce des produits qui viennent des colonies fonctionnait. Alors que beaucoup disaient qu'il fallait l'arrêter. Donc voilà, c'est fait aujourd'hui. C'est très important qu'il y ait une position et une action qui rassemble plusieurs pays, parce qu'il ne faut pas compter sur l'Union européenne en tant que telle. Il y aura toujours des blocages. Et par exemple, la question de la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël est un peu un serpent de mer. Ça n'aboutira jamais, parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ne voudront jamais se mettre sur cette posture-là. Donc, c'est important de chercher ailleurs des alliances à géométrie variable au sein de l'Union européenne et hors de l'Union européenne, comme par exemple la Grande-Bretagne. Ça, c'est très positif. En même temps, par rapport à l'ampleur de ce qui se passe, la déchirure profonde qui a lieu en ce moment en Cisjordanie et évidemment à Gaza, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ça puisse avoir moindre impact sur la position d'un gouvernement qui est, il faut le rappeler, je parle du gouvernement israélien, qui est un gouvernement d'extrême droite, messianique, et qui a une obsession qui est de dévorer la Cisjordanie pour l'annexer en définitive. C'est ça l'objectif.
Jean-Paul Chagnolot, président de l'Institut de recherche IREMO, propos recueillis par Inès Gilles. Je vous le disais, nouvelle passe d'armes au Moyen-Orient. L'Iran a bombardé des bases en Jordanie et dans le Golfe en riposte aux attaques des États-Unis contre des pétroliers iraniens. Washington menace l'Iran et ses soutiens de nouvelles sanctions. Les gardiens iraniens de la Révolution ont déclaré que la guerre pourrait prendre fin si Washington acceptait les demandes de Téhéran, Inès Gilles.
Oui, les gardiens de la Révolution ont aujourd'hui affirmé avoir attaqué 2 bateaux américains, 8 pétroliers et 10 autres navires. Plus tôt dans la journée, ils ont attaqué la base militaire américaine d'Al-Asraq en Jordanie, à 100 km à l'est d'Amman. Ces frappes auraient endommagé les lieux de déploiement des avions de chasse F-35, F-16 et F-15, ainsi que les abris pour les avions de combat. Cette offensive iranienne a été menée en réponse aux attaques américaines survenues hier sur 5 pétroliers iraniens de la région du Golfe. Une attaque confirmée par Washington. Le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, avait confirmé dans un communiqué avoir demandé aux équipages d'abandonner leur navire avant qu'ils soient touchés. Au même moment, les affrontements s'intensifient au Yémen. L'Arabie Saoudite, soutenue par Washington, a mené plus de 30 frappes au lendemain d'une attaque d'ampleur des houthistes soutenus par l'Iran contre le territoire saoudien. Des violences qui mettent en péril la trêve débutée en 2022 2022. Dans ce contexte, les négociations diplomatiques restent au point mort et les juxtaverbales se multiplient. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré aujourd'hui, en rendant visite à des soldats israéliens déployés en Syrie, que la République islamique d'Iran était sur le point de s'effondrer. Et puis le gouvernement américain, qui applique un blocus sur les ports iraniens, a placé sur sa liste noire l'entièreté du secteur aérien iranien. Il menace aujourd'hui de sanctionner toute organisation travaillant avec les compagnies aériennes du pays, dont les principales sont Mahan Air et Iran Air. De leur côté, les gardiens de la Révolution ont déclaré que la guerre avec les États-Unis pourrait prendre fin si Washington cessait de menacer l'Iran et acceptait les demandes de Téhéran, notamment concernant son programme nucléaire. À ce propos, les travaux de construction se sont intensifiés de manière significative depuis un an sur le mont Kolang, dans le centre de l'Iran, soupçonné d'abriter un complexe nucléaire souterrain.
Merci beaucoup, Inès Gilles. On le précise, les prix du carburant sont en forte hausse ce matin avec la reprise des hostilités en Iran. Le baril de Brent qui a dépassé les 100 dollars le litre ce matin. À la pompe également, en moyenne, le gazole est à 2,29 euros le litre. C'est énorme, 2,12 euros le sans-plomb 95. Et après la réunion à Bercy ce matin sur le prix des carburants, aucune nouvelle aide a été annoncée par le gouvernement. Après les incendies meurtriers de fin août, le gouvernement algérien a présenté un plan en 5 points pour notamment rétablir les réseaux, recenser les dégâts, indemniser les victimes ou encore reconstruire les habitations et les infrastructures. Un dernier volet essentiel pour mieux protéger les populations exposées. Pour Sadek Aïd Taïb de l'organisation algérienne L'Environnement et la Citoyenneté, il faut désormais mieux encadrer ces constructions.
Bon, comme je vois déjà l'Algérie, qu'on l'appelle le petit continent, c'est un continent, il est plein de forêts, plein de montagnes, les gens construisent dans des forêts, dans des montagnes, à un moment dans une cité anarchique, mais maintenant on doit organiser même la forêt. Pourquoi construire au milieu d'une forêt sans eau, sans électricité, sans route et dès qu'il y a un incendie, on met la vie des citoyens en danger. Et ça va se faire dans un cadre organisé. Il y a des services urbanisme qui s'en occupent de ça, qui sont bien formés pour ça. Ils vont mettre des règles pour que la construction soit organisée et le citoyen soit en sécurité.
Sadek Aïd Taïb, est-ce que au fond, ces incendies révèlent aussi un problème d'aménagement du territoire ? A-t-on trop construit dans certaines zones forestières sans suffisamment intégrer le risque incendie ?
Non, je crois que les incendies, c'est un phénomène international vu le réchauffement climatique, vu les conditions de la planète de ces dernières années avec la pollution, avec le réchauffement. C'est vrai, peut-être que les dégâts sont désastreux par rapport aux gens qui habitent dans les forêts, mais à mon avis personnel, que c'est dû au réchauffement climatique, c'est dû à des conditions climatiques, beaucoup plus.
Propos recueillis par Nadia Bencher. L'actualité toujours à l'étranger avec la guerre russo-ukrainienne. D'après les autorités locales en Ukraine, Moscou a mené la nuit dernière une attaque de drones. Au moins 2 personnes sont décédées, 3 blessés du côté des civils. L'attaque a touché un poste frontière routier entre l'Ukraine et la Moldavie. La France à présent, après la diffusion aujourd'hui par nos confrères du Midi Libre, d'une vidéo dans laquelle des policiers municipaux de Carcassonne tiennent des propos racistes, sexistes et complotistes au cours d'une patrouille nocturne. Le parquet de Carcassonne a même annoncé qu'une enquête avait été ouverte, inagile, sans en préciser la date. Le Rassemblement national, lui, est dans l'embarras.
Oui, dans l'embarras, parce que selon nos confrères du Midi Libre, le policier municipal qui prend le plus la parole est très investi dans le parti d'extrême droite. La vidéo est accablante. On y entend des propos d'un racisme particulièrement décomplexé, notamment à travers des imitations d'accent africain, mais aussi des déclarations minimisant la gravité du recours à la torture pendant la guerre d'Algérie. À cela s'ajoutent des propos ouvertement misogynes ainsi que plusieurs tirades homophobes. L'ensemble est particulièrement grave et glaçant. L'émergence de cette vidéo a provoqué une avalanche de réactions indignées du gouvernement aux partis principalement du centre et de la gauche. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a dénoncé des propos absolument inacceptables et regretté, je cite, une libération de la parole raciste en France. Le Rassemblement national, visiblement embarrassé, s'est empressé cessé de réagir. Il a condamné ses propos avec la plus grande fermeté. Dans un communiqué, la direction du parti a aussi affirmé avoir immédiatement procédé à l'exclusion du policier municipal concerné. Mais ce document est extrêmement embarrassant pour le parti d'extrême droite. Le policier membre du RN n'est pas le seul à prononcer des injures racistes et remarques sexistes ou complotistes, mais il est celui qui en profère le plus et il est très investi dans le parti. Il a notamment prêté main forte au département protection sécurité, le service d'ordre du RN, en assurant la sécurité rapprochée de son président Jordan Bardella lors de son déplacement à Carcassonne le 7 février 2026. Un déplacement qui avait alors pour but de soutenir l'actuel maire RN de la ville, Christophe Barbès, alors candidat aux élections municipales. L'embarras est d'autant plus grand que, porté par des sondages qui la placent en bonne position, Marine Le Pen, candidate du RN à l'élection présidentielle de 2027, est en pleine campagne.
Merci beaucoup Inès Gilles pour toutes ces précisions. La France a reçu son bulletin mention, doit se ressaisir. Les résultats PISA sont tombés hier. L'OCDE a dévoilé les résultats du programme international pour le suivi des acquis des élèves de 15 ans. Les scores en compréhension de l'écrit et en mathématiques n'ont jamais été aussi bas dans le pays depuis 2000. Yannick Trigan, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'éducation, met en avant les inégalités sociales.
Les inégalités restent très très fortes en France. C'est tellement vrai que par rapport à d'autres pays, ces inégalités sont sans commune mesure. Et que l'écart de performance, et c'est dans le rapport PISA, entre les établissements, il est beaucoup plus important en France que dans la moyenne des pays. Et donc, cela signifie que nous avons un sujet, nous avons une véritable ségrégation en France par rapport aux autres pays. Ça, c'est le premier élément.
Alors, ce sont les inégalités en fonction des territoires, des classes sociales, les différentes composantes de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ?
Bien sûr, parce qu'on a des inégalités qui relèvent avant tout des inégalités sociales. Je vous donne un seul exemple. En sciences, un quart des élèves les plus favorisés devance de 100 points celui des élèves les moins favorisés. Et donc, c'est une valeur qui est un écart qui est très supérieur à celle des autres pays l'OCDE, puisque la différence dans les autres pays, elle est en moyenne entre 80 et 85 points. Là, on est à 100 points d'écart entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. C'est la même chose en mathématiques et c'est la même chose en sciences. Et donc, on voit bien qu'il y a le sujet de ces inégalités qui pèsent très lourdement sur la réussite des élèves. C'est-à-dire que l'endroit où vous vivez, le milieu d'où vous venez, conditionne pour une très grande part, ça n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais conditionne bien à la fois votre parcours et votre réussite.
C'était Yannick Trigan, secrétaire national du Parti Socialiste, et il sera l'invité de François-Xavier de Calonne dans votre émission Pluriel ce soir. Et puis en foot, je vous le disais dans les titres, début de la première journée de la Ligue des Champions. Elle a débuté hier et elle continue aujourd'hui et demain. Le PSG affronte ce soir le Slovan Bratislava, un nom qui ne parle pas forcément à tout le monde. Mais alors justement, Salma Dakhlaoui, qui sont les adversaires slovaques du PSG ?
Alors, c'est le club le plus titré de Slovaquie. Fondé en 1919, il est basé dans la capitale slovaque, à Bratislava, et évolue dans le championnat national. Sur la scène européenne, le Slovan est un habitué. Son plus grand exploit remonte à 1969, avec une victoire en Coupe des Coupes face au FC Barcelone. Un trophée qui reste à ce jour le seul titre européen majeur remporté par un club slovaque. Et surtout, le Slovan domine largement son championnat. Le club reste sur 7 titres consécutifs depuis la saison 2018-2019, une véritable hégémonie sur la scène nationale. Cette saison, le club est entraîné par une figure bien connue du football européen, Yaya Touré, l'ancien milieu de terrain ivoirien, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2009. Côté terrain, le joueur à surveiller sera András Šporar, l'attaquant slovène et capitaine du Slovan, a terminé meilleur buteur du club la saison dernière avec 12 réalisations en championnat. Et pour arriver jusqu'à Paris, les Slovaques ont dû passer par 3 tours de qualification. Ils ont d'abord éliminé les Géorgiens d'Iberia 1999, puis les Suédois de Mielbu, avant de sortir les Slovènes de Celje en barrage. Avec une victoire, 2 buts à 1, au match retour après un nul à l'aller. Un parcours sans défaite qui leur a permis de décrocher leur place dans la phase de ligue. Et le coup d'envoi, c'est à 21h contre le PSG.
Merci beaucoup Salma Darlaoui pour toutes ces précisions. Radio Orient, il est 17h15. Merci beaucoup de nous avoir suivis.